Je vous remercie d'être là. Donc, on va parler des pneumonies communautaires, mais d'une certaine vision, je pense, qui va prêter à discussion entre nous. Nous sommes tous exposés à et confrontés à des gens qui ont des pneumonies, donc des toux fébriles qui viennent chez nous à la clinique. Avant de commencer mon exposé, je vais sûrement vous dire que on va pas parler des pneumonies communautaires qu'on appelle les healthcare associated pneumonia, qui sont tout à fait un autre chapitre. On va parler des pneumonies communautaires que nous confrontons tous les jours dans notre pratique clinique. Et comme vous le savez et comme vous le constatez, c'est des gens qui y arrivent et on ne sait pas où ils vont évoluer. Donc, ils peuvent avoir une variabilité énorme dans l'évolution de leur pneumonie, dans la sévérité de leur maladie et qui dépend justement de leur présentation clinique et des facteurs pathogéniques et du patient lui-même. On appréhende tous que nos patients ne fassent des complications et qu'ils évoluent mal de point de vue pneumonie. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra nous aider à pouvoir identifier chez ces patients qui sont à risque ou qui ne sont pas à risque de développer des pneumonies qui sont sévères? Au début, il y a les scores de risque que vous connaissez tous et je ne sais pas si vous êtes en train de les appliquer quand vous avez un malade qui vient chez vous à la clinique et est-ce que vous êtes en train de voir si c'est un malade qui a un score élevé de risque de pneumonie communautaire. Donc, ne vous en faites pas, même dans toutes les méta-analyses qui ont été faites, c'est des scores qui prêtent parfois à des faux positifs et à des faux négatifs et qui sont le plus utilisés pour des projets, pour des recherches qui ne sont pas trop appliquées en pratique courante, sauf chez les patients qui vont être hospitalisés ou qui vont rentrer dans les soins intensifs. À ce moment-là, ces scores vont être utiles. Le score qui a été le plus dans les méta-analyses, qui a prouvé le plus qu'il est significatif, c'est le CURB 65, donc, où on parle de la confusion, de l'urée, de la fréquence respiratoire, de la tension artérielle et de l'âge. Donc, pour les scores pronostiques, oui, ils existent. Ils existent pour les malades qui vont être hospitalisés et pour voir si c'est des malades à risque de développer une mortalité. Mais en pratique courante, dans toutes les méta-analyses, ils ont dit qu'ils sont plus à but de recherche et on peut trouver beaucoup de faux positifs et de faux négatifs dans ces scores quand on les voit dans la littérature. Qu'en est-il de la radio du thorax? Est-ce que vous faites une radio du thorax à toutes les pneumonies communautaires ou à tous les malades qui viennent vous voir pour une toux aiguë? Et donc ça, c'est une étude qui a été publiée dans l'European Respiratory Journal en 2013, où ils ont pris 2810 patients avec une toux aiguë chez 246 médecins généralistes dans 12 pays différents de l'Europe. Et ils ont trouvé que d'une part, chez les gens qui ont été suspectés cliniquement d'avoir une pneumonie, 57% seulement avaient une confirmation radiologique de leur pneumonie. D'autre part, dans toute cette population, 5% seulement ont eu une radio de poumon, dont 29, donc 41 patients, avaient un diagnostic clinique de pneumonie. Donc vous voyez qu'on ne fait pas, qu'on a beaucoup de radio du thorax et que le jugement clinique prime dans l'abord de ces patients-là. Donc, ils ont conclu que la sensibilité du jugement clinique est de 29% et la spécificité est de 99% avec une valeur prédictive de 96%. Une autre étude, elle a aussi comparé le jugement clinique à la radio du thorax. Et dans cette étude, il y a eu en total 243 patients, dont 193 patients avaient reçu des antibiotiques et 50 n'ont pas reçu d'antibiotiques, dépendamment du jugement clinique. Et dans cette étude, la spécificité était très diminuée. Mais quand ils ont fait une radio du thorax à ces patients-là, ils ont trouvé que 166 des patients qui ont reçu des antibiotiques n'en avaient pas besoin, ils n'avaient pas de, de pneumonie radiologique. Et de même que 5 des gens qui n'ont pas reçu des antibiotiques avaient une pneumonie. Et donc, chez ces patients-là, et ceci justement après avoir fait une radio, ils ont trouvé que 86% avaient une prescription antibiotique inappropriée. Donc, le fait de faire une radio du thorax permettra, avec le jugement clinique, d'augmenter vos chances de bien confirmer le diagnostic de vos patients. Mais on ne s'arrête pas là. Est-ce que tout un filtrat sur une radio du thorax est une pneumonie? Il y a eu des gens, ça c'est un article aussi récent, qui a été publié en 2015, et ils ont pris toutes les pneumonies qui sont arrivées dans une urgence, et dans les 48 heures qui suivent, ils ont fait un scan thoracique à ces pneumonies. Donc ils ont vu que le tiers des patients qui avaient une désinfiltration sur la radio n'en avait pas sur le scan, un autre tiers qui n'avait pas d'infiltrat sur la radio avait un infiltrat sur le scan, et il y a eu une modification de la classification par le scan dans 58%. Mais en conclusion, ça n'a pas modifié la prescription antibiotique. 16% seulement avaient eu une initiation d'antibiotiques et 9% on a arrêté l'antibiothérapie. Donc c'est pour dire que bon, le scan peut-être pourra préciser, mais si on veut voir si par rapport au coût ça pourra mener à quelque chose de plus objectif, ça n'a pas été confirmé par cette étude. Ça c'est pour la radio et pour le scan. Qu'en est-il des biomarqueurs? Donc tous on fait, nous faisons chez nos patients des CRP et des procalcitonines. Donc il y a beaucoup dans la littérature des articles sur les biomarqueurs. Donc ça c'est 6500 articles qui ont été recensés sur les biomarqueurs dans les infections des voies respiratoires. Et tous nous savons que ces biomarqueurs sont avisés, diagnostiques, thérapeutiques et même pronostiques. Donc ils permettent d'identifier un germe. Et ils permettent d'éviter d'avoir des procédures plus invasives. Ils peuvent guider la durée de notre traitement et l'initiation de notre traitement. Et aussi, ils peuvent un tout petit peu nous donner une idée du pronostic de notre patient. Est-ce que c'est vrai? Donc là, je vous mets quelques articles aussi. Donc ça, c'est un article qui a été publié en 2005 sur la CRP, qui a fait une méta-analyse sur 5 études et où il n'a pas trouvé un intérêt de la CRP dans elle n'était pas suffisamment sensitive pour éliminer ou confirmer une pneumonie. Mais ceci n'a pas été aussi confirmé dans d'autres études. Il y a d'autres études qui ont montré que la CRP significativement confirme quand elle est élevée, elle confirme une pneumonie comparée à des sujets contrôle ou suspect de pneumonie communautaire, mais il faut avoir un taux, un cut-off de cette CRP. Quel est le taux à partir duquel on peut dire que notre malade a une pneumonie ou on n'a pas de pneumonie? Donc, ils ont trouvé qu'une CRP supérieure à 40 mg par litre a une sensitivité de 70% et une spécificité de 90%. Et plus on diminue le taux de CRP, plus la spécificité va diminuer. Et un cut-off de 100 mg était à ce moment-là peut être utilisé comme un indicateur de la présence d'une pneumonie. Ça, c'est, vous voyez en bas, plusieurs articles qui ont abouti à ces conclusions concernant la CRP. Donc, la CRP peut être utile dans le diagnostic d'une pneumonie, et plus on s'élève dans le taux de la CRP, plus on est sûr que notre malade a une pneumonie. La procalcitonine, le taux est de 0,25 nanogramme, qui a été associé à la présence d'une pneumonie communautaire, mais ceci ne s'applique pas dans les décompensations infectieuses de BPCO. Donc, c'est des taux qu'on a étudiés et qu'on a confirmés dans les pneumonies à partir de plusieurs études qu'on vient de voir. Procalcitonine supérieure à 0,25 est associée à une pneumonie, mais qu'en est-il de la sévérité de la pneumonie? Y a-t-il un seuil pour la procalcitonine pour dire que notre malade a une pneumonie qui est très sévère. Donc ça, c'est un article récent qui a été publié dans Respirologie, et ils ont dit que le taux qui permet de prédire un pronostic de pneumonie reste débattu, et il n'y a pas encore un taux sur lequel on peut dire que notre malade est à risque très sévère de développer une pneumonie. Pourquoi ? Parce que dans les différentes études, les tests qui étaient utilisés pour doser la procalcitonine étaient très différents, étaient de sensibilité différente, donc ils n'ont pas pu arriver à une conclusion sur le taux de procalcitonine qui peut préciser la sévérité d'une pneumonie. Donc, on sait que la procalcitonine est associée, on peut dire que le cut-off de 0,25 à 0,5 est associé à une pneumonie, mais il n'y a pas de taux plus élevés qui peuvent nous dire que il y a une mortalité plus élevée avec ces niveaux-là de procalcitonine. Donc, des études plus poussées sont à être effectuées. Donc, on a confirmé notre pneumonie. Est-ce que ça va guider notre prescription antibiotique? Donc, est-ce que le fait d'avoir une CRP et une procalcitonine, ça va guider notre prescription antibiotique? C'est une première étude effectuée en l'an 2000, où ils ont vu, aussi dans la pratique de 35 médecins généralistes sur 812 patients, si le fait de doser la CRP pourrait modifier la prescription antibiotique. Ils n'ont pas trouvé de différence significative dans cette étude-là. Mais une étude plus récente, dans l'European Respiratory Journal en 2012, où ils ont pris les CRP donc, chez des patients et ont vu s'ils peuvent diminuer la prescription antibiotique. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, donc voilà, dans cette étude, vous voyez que les gens qui ont eu des antibiotiques étaient, regardons les p-values, c'était les gens qui étaient âgés, qui avaient une BPCO, qui étaient fébriles, qui avaient une augmentation de leur dyspnée avec une augmentation des crachats et des crachats purulents, et ils avaient sur la radio du thorax, avec un odds ratio de 8, une présence de pneumonie. Et ceux qui avaient aussi où la décision antibiotique a été significativement influencée dans cette étude-là par le taux de CRP. Donc une CRP à moins que 10, ils n'ont pas reçu des antibiotiques, et donc à partir de 20, il y a eu une modification des antibiotiques, et ça a été détaillé dans ce paragraphe. C'était 4840 patients, donc 61% n'avaient pas eu un dosage de la CRP et donc il y a eu une prescription d'antibiotiques. Mais chez les gens où il y a eu un dosage de la CRP, on a vu que le fait qu'il y ait une CRP a permis de diminuer la prescription antibiotique. Quand elle est élevée, ils prescrivaient. Quand elle était moins que 20, ils ne prescrivaient pas des antibiotiques. De même pour la procalcitonine, donc ça c'est une étude qui a été effectuée par rapport à la procalcitonine, et donc vous voyez c'est un nombre énorme de gens, où dans le groupe contrôle on avait 2126 personnes, et dans le groupe procalcitonine 2085 personnes, et donc ils ont vu que le fait qu'on a un groupe, un dosage de procalcitonine, ça a permis de diminuer la durée des antibiotiques de ces patients-là, et donc l'exposition à un antibiotique a été aussi diminuée, et donc l'initiation des antibiotiques a été aussi modifiée dépendamment du taux de procalcitonine. Et donc la conclusion était, donc chez ces patients-là, c'est que on peut, à partir d'une bonne orientation clinique chez nos patients et une CRP, diminuer l'usage des antibiotiques dans les infections respiratoires inférieures quand on est bien orienté dans l'examen de notre patient et concomitamment avec une CRP. Et la procalcitonine peut être utilisée comme un outil sûre pour arrêter les antibiotiques chez des patients qui ont une infection des voies respiratoires inférieures, des compensations infectieuses de BPCO ou même associées à la ventilation, dans les pneumonies associées à la ventilation, et ceci en Europe. J'ai retiré mes slides d'un cours sur les antibiotiques qui a été fait à l'IRS l'année dernière. Qu'en est-il du PCR ? Le PCR, il n'y a pas d'études randomisées qui peuvent démontrer la supériorité des PCR pour les différents pathogènes. Les difficultés techniques existent. Il est à considérer dans une population très particulière chez qui on a vraiment des litiges de diagnostic tels que les immunodéprimés et les pneumonies des ventilateurs. Une autre astuce que j'aimerais partager avec vous, est-ce que le taux de procalcitonine et de CRP permet de distinguer entre les étiologies des pneumonies communautaires? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut nous dire que c'est une pneumonie virale ou bactérienne, pneumonie atypique ou typique, ou virale ou typique? Et ça, c'est une étude qui a été effectuée sur les paramètres inflammatoires et les étiologies des pneumonies communautaires, qu'on appelle la CAPNET study, et c'était chez des patients non hospitalisés qui avaient une pneumonie communautaire, et ils ont trouvé chez ces patients-là que la procalcitonine, la CRP et les globules blancs étaient supérieurs chez les pneumonies bactériennes par rapport aux atypiques et virales, et qu'il n'y avait pas de différence entre les atypiques et les virales. Quels sont les groupes de patients qui vont avoir un taux de réadmission ou de récidive de leur pneumonie après un premier traitement? Est-ce que ce sont les gens qui ont des cultures négatives, virales, cultures positives sensibles, cultures positives résistantes ou cultures négatives ou positives, ils ont les mêmes pronostics? Donc, dans cette étude aussi récente de Chest, ils ont trouvé que sur 9000 patients aux États-Unis, 46% avaient une culture négative, 31% avaient des germes sensibles et 2% avaient des virus. Et les prédicteurs de réadmission à l'hôpital, c'était la résistance aux antibiotiques et les comorbidités, les maladies pulmonaires chroniques et la cirrhose et donc la sévérité de la pneumonie. Nous sommes tous confrontés à un abus des antibiotiques. Donc je pense que ce qu'on vient de dire permettrait peut-être nous donner des astuces pour limiter l'usage des antibiotiques à l'aveugle et permettre d'évaluer mieux nos patients. Mais il ne faut pas passer à côté d'une pneumonie qui nécessite un traitement antibiotique précoce, parce qu'on sait que si on ne donne pas au bon moment les antibiotiques, on va avoir une augmentation de la mortalité de nos patients. Quels sont les patients qui doivent recevoir des antibiotiques? Est-ce que ceux qui ont des crachats purulents, ceux qui ont une toux persistante de plus que 14 jours, les gens qui ont plus que 65 ans avec des comorbidités, suspects de pneumonie, des compensations de BPCO? Donc ça, ce sont les recommandations de l'IRS à qui il faut donner des antibiotiques. Donc, il faut le donner quand on a un diagnostic de pneumonie, dans les décompensations de BPCO sévères, donc stade 3, chez les gens vieux et qui ont une fièvre, dans les insuffisances cardiaques, chez les diabétiques et les gens qui ont des troubles neurologiques. Et on parle de pneumonie quand on a des signes auscultatoires localisés, dyspnée, tachypnée, fièvre de plus que 4 jours, et il faut toujours faire une radio du thorax pour la confirmation. Qu'en est-il des germes? Tous on sait que le pneumocoque est le germe le plus fréquent dans les pneumonies communautaires, que ce soit les pneumonies en externe ou les hospitalisées. Et il le reste, mais il ne faut pas passer à côté des germes résistants. Et donc vous voyez que 2% des patients extra-hospitaliers peuvent avoir des germes résistants et 7% en intra-hospitalier. On parle des pneumonies communautaires. Les étiologies dans les décompensations d'asthme, dans les bronchites aiguës, dans les décompensations infectieuses de BPCO, le plus souvent, ce sont des infections virales, et on pourra en discuter. mais les pneumonies communautaires, les pneumonies de ventilateurs et les immunocomprimés, le plus souvent c'est des bactériennes, et ils constituent 75% du total des prescriptions antibiotiques. Et il y a eu une étude qui a été faite aussi chez les généralistes, des germes qui ont été détectés dans les infections des voies respiratoires inférieures chez des patients et chez des contrôles, et ils ont trouvé que 63% des patients avaient des virus, 26% infections bactériennes. Ça, c'est dans les cliniques des médecins généralistes, et 69% donc était le taux de détection. Je pense au Liban, on a un problème de détection des infections virales. Quand penser à couvrir les germes résistants chez nos malades qui ont des pneumonies communautaires? Donc, malgré que les pathogènes résistants ne sont pas très fréquents, donc comme on vient de dire 2 à 7%, leur présence doit être détectée parce qu'ils sont parfois, il faut élargir notre antibiothérapie. Et il a été démontré que la présence de résistance a été surtout vue avec les comorbidités, pas avec l'âge. Et donc, les germes résistants sont le Staph aureus, Pseudomonas et Enterobacter. Et ils sont accompagnés avec une grande mortalité, une plus grande hospitalisation et admission aux soins intensifs. Qu'est-ce qui permet de générer des germes résistants? Donc, il y a l'abus des antibiotiques, on peut acheter les antibiotiques comme on le veut, non contrôlés, l'utilisation inappropriée, même si c'est un rhume, et l'utilisation des antibiotiques à spectre large, les facteurs socio-économiques, et parfois il y a la contamination environnementale, donc l'industrie pharmaceutique, les savons, et même ce qu'on est en train de manger, et donc et qu'est-ce qu'on est en train d'alimenter les animaux qu'on mange. Il faut toujours, pour prescrire des antibiotiques, avoir la résistance locale dans notre pays, et donc qui nous permet à ce moment-là de considérer l'antibiotique qu'on va choisir, et aussi ça peut prêter à discussion entre nous. Qu'en est-il des génériques? C'est très important de savoir qu'un bon générique doit avoir la même substance active, la même forme pharmaceutique, les mêmes indications thérapeutiques, et qu'il ait une bioéquivalence respectée donc par les gens qui ont l'expertise. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous aider dans nos diagnostics? Mes deux dernières slides vont vous parler d'une étude récente qui a été publiée en janvier 2016, où il y a une étude sur l'expression génétique des hôtes en réaction à une infection virale ou bactérienne. Il y a une signature sur nos gènes en réaction à une infection bactérienne ou virale. Et même dans cette étude, ils disent que peut-être qu'on va isoler un gène chez notre patient, mais si la signature sur ces gènes est virale, il faut traiter le virus, ne pas traiter le gène. C'est une étude toujours expérimentale, mais qui permet de discriminer les groupes et les infections virales et bactériennes et pourrait avoir une utilité diagnostique. Mes dernières recommandations sont que les pneumonies sont variables. J'espère avoir un tout petit peu aidé dans vos décisions. La procalcitonine élevée peut être associée à une augmentation du risque de mortalité, mais ça prête toujours à des débats. On a besoin toujours d'étudier les taux les plus bas de procalcitonine qui peuvent nous donner une valeur pronostique. La signature bactérienne ou virale est notre futur et donc elle est prométrice. Les globules blancs et la procalcitonine et la CRP sont plus élevés dans les infections bactériennes typiques. Et il faut favoriser l'usage des agents antiviraux au lieu d'utiliser d'abuser des antibiotiques. Il faut toujours regarder ce qu'on a des germes localement et la résistance des germes dans notre pays. Et les germes résistants dépendent sûrement des comorbidités et de l'état fonctionnel de notre patient. Merci.
دكتورة عون